Jean Richepin, le regard. Devant cette porte close, l'aliéniste avait passé d'un pas plus rapide et en détournant la tête d'un air distrait comme s'il pensait fortement à autre chose. Mais je ne m'y étais pas trompé. À la brusque décision de son mouvement, j'avais compris qu'il ne voulait pas me parler de celui-là. Aussi lui dis-je, « Et celui-là, il n'est donc pas intéressant ?» Il me répondit, embarrassé, « Non, pas très. Un cas banal, délire des grandeurs. Paralysie générale à la seconde période. Rien de particulièrement curieux. » Son embarras suait le mensonge. Je n'en mis que plus d'insistance à manifester mon vif désir de voir ce fou. « Soit, dit alors l'aliéniste, mais contentez-vous de le voir seulement, sans entrer dans sa chambre. Il a en effet des accès de vésanie furieuse et soudaine pendant lesquels il est dangereux. » Et avec le moins de bruit possible, il ouvrit le judas percé dans la porte. L'homme était debout, immobile, les bras ouverts, les doigts écartés, dans une pose d'extase. Je le voyais de dos seulement, mais à la rigidité de tout son corps, je devinais cette extase et j'imaginais ses yeux en contemplation fixe devant un point où l'attention de son être entier se concentrait. C'était le point le plus noir du coin le plus obscur de la chambre. Et pourtant, ma contemplation fixe s'y étant attachée, ce point noir me parut bientôt vaguement lumineux, comme si le regard du fou s'y reflétait. J'en fis tout bas l'observation à l'aliéniste. Ma voix, quelque chuchotante, avait réveillé l'extatique de son extase. Il se tourna vers nous. Il avait une belle tête, douce et noble, un front haut de penseur, une bouche sinueuse d'homme éloquent, des yeux ardents de poète. Il ne semblait pas du tout exalté par la démence, mais caressé par le rêve. Il attirait l'amitié. C'est avec tristesse et non avec colère qu'il murmura en regardant l'aliéniste, « Quand me rendrez-vous ce que vous m'avez pris, voleur ?» D'un coup sec et irrité, l'aliéniste referma le judas. Puis il m'entraîna dans le couloir en disant, sur un ton dégagé, « Oh, le délire de la persécution est toujours concomitant au délire des grandeurs. Un cas banal, je vous le répète, paralysie générale à la seconde période. » « C'est drôle, répliquai-je, il m'intéresse, moi, ce cas banal. Est-ce à cause du visage de l'homme, qui m'est extrêmement sympathique ? « Sans doute, mais j'aimerais à connaître l'histoire de ce fou. Pourquoi ne voulez-vous pas me la dire ? Pourquoi ?»« Oh, fit l'aliéniste, si vous y tenez à ce point, je vous la dirai. Je n'ai aucune raison de ne pas vous la dire. » Il mentait encore. Je sentais fort bien qu'il cédait à la méfiance presque menaçante de ma demande et qui lui était très désagréable en somme d'y céder. Aussi est-ce d'une façon maussade qu'il me conta l'histoire, debout dans son bureau, sans même m'avoir invité à m'asseoir pour l'entendre. Il avait visiblement grande hâte de s'en débarrasser. Tel qu'il me l'a dit, cependant, cette histoire ne laissa pas de me paraître passionnante. La démence de l'homme, en effet, s'était manifesté par l'emprise d'un regard. Un jour, chez un marchand d'antiquailles, l'homme avait acheté un portrait du siècle dernier, portrait d'un capitaine marin, et sa folie était née du regard de ce portrait. Dans les yeux d'où émanait ce regard, les lignes formées par les circonférences concentriques de la prunelle et de la pupille, par les bâtonnets des lumières et des ombres, par les courbes elliptiques de la sclérotique, Ces lignes constituaient un dessin de géométrie tout à fait spécial, paraît-il, et dont le fou prétendait pouvoir tirer la détermination exacte d'un point. Ici, malgré son désir d'être sec, l'aliéniste ne put s'empêcher de donner cours à une sorte d'émotion qui lui faisait la voix tremblante et le geste fébrile. « Ce point, dit-il, serait l'emplacement, situé au Brésil, d'une ancienne cité, tout en or, aujourd'hui souterraine. » Il ajouta, en reprenant son calme, « Vous voyez que cette idée est une des idées fréquentes dans le délire des grandeurs. Une cité tout en or, c'est absurde. » Alors, dis-je, c'est cela, cette cité tout en or, qu'il vous reproche de lui voler. Non, c'est surtout le regard, expliqua vivement l'aliéniste. Oh, je ne comprends pas, fis-je. Il avait répliqué plus vite qu'il n'aurait voulu. Il fut obligé de m'expliquer ce qu'il avait laissé échapper ainsi. Et oui, continua-t-il, le regard du portrait. Le regard de ses yeux, aussi étrange dessin géométrique, ce regard qui est à lui seul un révélateur en quelque sorte, car il est d'un jaune verdâtre où il semble que vive l'âme même de l'or. Et de nouveau la voix tremblante de l'aliéniste, et ses mains avaient des frissons. Dans ses yeux, à lui aussi, passait cette âme de l'or. La lueur qui en jaillissait à ce moment me rappelait, je ne sais pourquoi, celle que j'avais vue tout à l'heure sur le point noir où semblait se refléter le regard du fou. Mais, demandai-je, comment lui avez-vous donc volé ce regard? Et d'une voix forte et méchante, il me répondit, en lacérant le portrait. Vous avez peut-être eu tort, dis-je. Si les yeux de ce portrait avaient une telle intensité de regard, si l'âme même de l'or, selon votre expression, vivait dans ce regard, un portrait pareil était une espèce de chef-d'œuvre, et en le lacérant, vous avez commis un véritable crime artistique. Violemment, il s'écria, « Mais le crime ! C'était de laisser subsister ce portrait, ce regard, cet effroyable tentateur de regard. Car il y avait, là, croyez-moi, dans ce regard, de quoi troubler non seulement un cerveau déjà faible d'homme, voué à la paralysie générale, mais même une solide et saine raison. Je vous jure que le dessin géométrique des yeux, une fois constaté, et il était réel, l'emprise de ce regard, devenait si forte. Il cessa de parler. Il était tout pâle. On lui dit qu'il ne s'apercevait plus de ma présence, qu'il était ailleurs, qu'il voyait en imagination ce regard. Brusquement, une aigre et précipitée sonnerie de timbre électrique le réveilla. En même temps, un gardien accourait le chercher pour un pensionnaire en proie à une crise. Sans prendre le temps de me congédier, encore à demi en hypnose, l'aliéniste sortit, me laissant seul dans son bureau, dont la porte d'ailleurs resta ouverte. J'étais dans une agitation intérieure qui me faisait mal. Je me sentais comme attiré vers un tas de paperasses qu'un presse-papier écrasait sur la table. Ce presse-papier, bronze figurant un monstre chinois, semblait me défier de délivrer ses paperasses. Je le bousculais, j'éparpillais les feuilles qu'il tenait captives. J'y jetais les yeux furtivement. Elles étaient couvertes de dessins géométriques, d'équations, de calculs. J'y reconnus l'écriture de l'aliéniste. Je continuai d'éparpiller les feuilles. Je les dispersai fiévreusement dans la chambre, et quelque chose, qui était sûrement enfoui sous le tas, me forçait à faire cela. J'arrivai enfin à ce quelque chose. Je crus m'évanouir. Devant moi, un fragment de peinture, coupé avec des ciseaux dans une toile, me montrait une paire d'yeux, les yeux du portrait que l'aliéniste disait avoir lacéré, les yeux d'Ardan, le fameux regard, et ce regard où vivait en effet l'âme même de l'or. Certes, il avait volé le fou, il lui avait volé ce regard, dans la contemplation duquel il était lui aussi l'aliéniste, en train d'abîmer sa raison. Oh, ce regard, ce regard, ce regard! Et je me suis sauvé dans un ouragan d'épouvante devant ce regard que j'ai vu seulement moi le temps d'un éclair, pas davantage, et auquel cependant je ne puis jamais songer sans me dire « Qui sait si le fou était fou ?»